Bonsoir à tous, chers amis HDRiens, chers amis HDRiennes, chers amis de Gramont, chers amis de Principe Actif, tout le monde quoi. Bonsoir à tous et à toutes. Et bonsoir également à ceux qui sont avec moi dans le studio. J'ai nommé par exemple l'ami Fino. Priviet, monsieur Fino.
Bonjour.
Nous sommes également donc avec monsieur José Sagitte, organisateur, créateur, tête pensante, en tout cas la moitié de la tête pensante du festival Art et Déchirure, qui sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Et puis dans la première partie de cette émission, on va retrouver tout un tas de choses. Vous le savez, traditionnellement, habituellement, ben c'est votre agenda, l'agenda qu'on retrouve tous les jours. Pas de surprise, le lundi, on retrouve également la tchatch déo qui a été préparée pour vous par l'ami Fino, qui vous a demandé si vous vous sentiez en sécurité dans le quartier. On va bien sûr retrouver, puisqu'on parle de l'ami Fino, sa fameuse revue de presse. Alors je ne sais pas dire revue de presse en russe, mais je suis sûr qu'il vous a concocté plein d'infos très intéressantes, non sur la Russie, mais sur le quartier, sur Rouen en général. Et puis ensuite, on va retrouver des haïkus. Alors qu'est-ce que c'est que des haïkus? Eh bien, des haïkus, c'est des petits poèmes japonais qui peuvent sembler incongrus comme ça de prime abord, et qui en fait sont très lourds de sens quand on se penche un petit peu dessus. Et c'est ce qu'ont fait les enfants de l'école Rameau, l'école du quartier, hein, qui ont donc écrit des haïkus et qui nous les ont préparés pour qu'on puisse vous les diffuser. Vous allez voir que c'est pas mal. Je crois que ce soir, ce sera les amis Nordine et Ismaël, voilà, c'est ça, qui vous ont préparé quelque chose sur l'automne. Et puis on va retrouver également des petites interviews, des petites capsules, on va dire, sur les 20 ans du Festival Chandelle. Donc le Festival Chandelle qui vient de commencer, qui bat son plein, hein. Le Festival Chandelle, donc ça, ce sera tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous le savez, donc je vous l'ai dit, monsieur José Sagitte, avec qui on va discuter tranquillement du Festival Art et Déchirure. Et puis avant d'aller plus loin, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs. Vous m'entendez, je suis hilar pour cette rentrée, puisque nous avons des places à vous faire gagner, des places notamment pour Max Romeo au 106 ce mercredi 6 novembre à 20h, également des places de Nubian Twist. Alors ça, c'est un groupe, je crois même que c'est dans le cadre du Festival Chandelle, on vous en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est jeudi à 20h. Et puis également des places pour RK samedi à 20h. C'est bien, c'est tout le temps à 20h. Si vous êtes intéressé pour gagner ces places, c'est très simple, il vous suffit de nous envoyer un message sur la page Facebook de Radio HDR, habilement nommée Radio HDR, avec votre nom, votre prénom, et puis en rajoutant quel artiste vous voulez aller voir, donc Max Romeo, Nubian Twist ou alors RK. Et puis pour savoir ce que c'est que Max Romeo, pour vous qui ne le connaîtrez pas, eh bien on va vous passer tout de suite un de ses morceaux, c'est Chase the Devil par Max Romeo.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Oh yeah. Him off he drop, him far can't run. Him can't stand up to judge a son. Him off he left ya with him gone.
chokes it on I man. So when I check him, I lass in hand. And if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
C'était donc Max Romeo avec Chase the Devil. Et je vous le disais, Max Romeo, vous allez bientôt pouvoir le retrouver, donc mercredi 6 novembre à 20h. Eh bien, foncez si vous voulez avoir vos places gratuites. Hein, vous savez comment faire maintenant. Je vous le rappelle quand même, petit message sur la page de Radio HDR. Sinon, au 106, il se passe des choses, pas forcément toujours que des choses musicales, aussi des choses visuelles, puisque jusqu'au 21 décembre, vous pourrez retrouver l'exposition 69 années érotiques. Années héroïques, pardon. Ça y est, je me laisse emporter par les chansons de Serge Gainsbourg. 69, donc, années héroïques. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette exposition ? C'est une exposition qui veut retracer un petit peu le visage de la musique de l'année 69 autour du festival de Woodstock, avec plein de pochettes d'albums autour du festival de Woodstock, également des affiches de musique, y compris des affiches du festival de Woodstock. Donc ça, c'est à ne pas rater si vous êtes un peu un passionné de cette époque. Et puis sinon, vous en a déjà parlé dans ce Blabla Mix, mais il est essentiel pour nous d'y revenir ce soir pour des raisons que vous comprendrez peut-être plus tard, chers auditeurs. Eh bien, mardi 5 novembre, c'est demain, les camarades, à 19h, eh bien, il y aura Las Famatinas à la chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. Petit indice, c'est de ça dont on va reparler tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Las Famatinas ? C'est trois musiciennes qui vous font de la musique argentine. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre du festival Chandelle et c'est bien cool, chers camarades. Alors, ne ratez pas ça. Sinon, ami Fino, je sais que tu as tout le temps le nez dans l'actu. Est-ce que tu veux bien nous faire ta revue de presse ?
Oui, bien sûr. Écoutez, bonjour à tous. Rebonjour d'ailleurs, mes blabla mixeurs et blabla mixeuses. Bienvenue dans la revue de presse du Blabla Mix. Et oui, en ce début de semaine, ça a été les vacances pour les périodes scolaires. Donc le lundi, comme on dit, ça pique. Et oui, ça pique partout. Déjà, on va commencer avec la météo. Ça pique justement puisque ce matin, on commence avec un degré de 8 degrés. Le froid commence à arriver. Et il ne faut pas l'oublier que là, ça a été pluvieux jusqu'à 16h. Et la période de degrés est montée jusqu'à 14. Tout en sachant que tout le temps reste nuageux dans l'ensemble. Et oui, humidité à 74%, il y a du vent qui souffle à 23 km/h. Et je pense que ça, ça va être pendant toute la semaine, puisque demain, mardi, eh ben, ça va, il va y avoir un peu quelques éclaircies et un petit peu, ça va être nuageux. Par contre, toute la semaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi et le dimanche, ça va être très, très, très pluvieux. Donc, sortez vos parapluies. Donc voilà, malheureusement, le soleil ne va pas vous sourire en ce début de semaine et en fin de semaine, tout au long de ce week-end. Et oui, c'est une période où on va rentrer dans la période hivernale, bien sûr, jusqu'au 31 mars, pour tous ceux qui savent. Pour ceux qui ne le savent pas, justement. Donc voilà pourquoi je vais vous expliquer aussi, en revenant dans la revue de presse, pourquoi retrouve-t-on un accent sur le lait de certaines communes, et bah justement en Normandie, bah Sotteville-lès-Rouen, Déville-lès-Rouen. Que fait donc cet accent grave sur les laits ? Le lait, L-E, accent aigu, S. Et oui, on a un accent, il faut le savoir, en Normandie, on a souvent un accent. Et oui, effectivement, les éléments de réponse avec Roger Jouet, historien spécialiste de la Normandie, qui nous explique un petit peu ça. Il nous dit que justement, à Déville-lès-Rouen, il y a un accent Sotteville-lès-Rouen, il y a un accent Côte-Bec-les-Elbeufs, il y a un accent Saint-Pierre-les-Elbeufs, il y a un accent ou encore Bapaume-lès-Rouen ont des accents.
Ah et oui, bah j'ignorais, cher fils.
Voilà. Et justement, bon, on a des accents de la façon comment on parle. Justement, il faut savoir que Rouen et ses communes ont des accents. Donc, ça dépend comment on dit Rouen, par exemple, les Normands. La forme, certains mots qu'on utilise en Normandie, c'est remonté à l'époque des Vikings. Pour en savoir plus, il a fallu faire un rappel à un érudit, c'est Roger Jouet, et auteur historien spécialiste de la Normandie, comme je le répète. C'est un ancien professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Caen. Dans sa Bessacre, il nous consacre « L'homme détient plusieurs documents précieux comme des volumes du dictionnaire Larousse du 19e siècle ou encore le dictionnaire des anciens français par Frédéric Godefroy ». Et oui, justement, c'est pour ça qu'on a un accent qu'on utilise régulièrement sans prêter attention. Voilà, de toute façon, faut le savoir parce qu'on le sait que des fois, il y a des petites barrières, des petites frontières entre Rouen à la rive droite et Rouen à la rive gauche. Nous avons un état d'esprit, une mentalité, les communes, justement, ou encore d'autres, dans le département de la Seine-Maritime, comme par exemple au Havre, ils ont leur façon de parler, tout en sachant qu'on vient de la Normandie. Donc voilà pourquoi il a voulu tenir cet accent pour dire que voilà, cet accent est vraiment réel dans ces communes. Et oui, justement, dans ces communes, eh ben, j'ai calculé comment j'ai cuisiné ça dans cette revue de presse. Alors, justement, on fait partie d'un grand mouvement. Alors, emploi, logement, Rouen, dans le top 5 des villes les plus attractives de France.
Ça fait plaisir.
Ah, voilà, on est dans le top 5. Alors, selon un baromètre de l'attractivité des villes françaises qui conjugue emploi, pouvoir, d'achat immobilier, Rouen est l'une des 5 villes les plus attractives de France. Pour la troisième année consécutive, et ben justement, il y en a plusieurs qui ont publié ça, vu le baromètre Work et Live de l'attractivité des grandes villes françaises. Bonne nouvelle, la ville de Rouen, Seine-Maritime, se place à 5e position derrière Besançon, Orléans, Saint-Étienne et Grenoble. Un fournisseur de solutions innovantes pour le recrutement meilleurtaux.com. Si vous voulez savoir quelque chose, vous tapez www.meilleurtaux.com et vous allez voir sur ce site comment ils conseillent les particuliers à la recherche de services financiers, une méthodologie pour trouver de l'emploi, d'un salaire. Qui dit emploi dit salaire et qui dit emploi dit diplôme, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, d'ailleurs, on a l'université, je pense, qui joue beaucoup dans cette attractivité.
Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on rentre dans ce contexte-là, justement, on retombe tout ça, le sujet phare de ce moment et qui va nous rester là jusqu'après 2020, on retombe là-dessus puisque, justement, la semaine dernière, puisque nos émissions ont repris qu'aujourd'hui, en ce lundi 4 novembre, et oui, Emmanuel Macron est passé nous voir à l'improviste dans notre ville de Rouen. Il a été reçu par notre maire de Rouen, M. Yvon Robert. Le chef d'État a tenu, mercredi dernier, à dédouaner l'État qui fait, selon lui, preuve de compétence, de sang-froid et de professionnalisme. D'après lui, ce n'est pas ce qu'on respire qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir ce qui se passe autour des usines et des dangers au niveau des riverains. Alors, les services de l'État ont réagi avec une compétence, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de professionnalisme, comme je le répète tout à l'heure. Je pense qu'il n'y avait pas eu de défaillance de services de l'État dans la gestion de l'incendie chimique de Lubrizol le 26 septembre dernier. De là où je suis, je n'ai pas vu la défaillance, au contraire. C'est ce qui confirme, a-t-il ajouté, et d'un point de presse à la mairie de Rouen, ça ne l'a pas trop inquiété, vu que les pompiers ont été salués par lui-même pour le courage et la bravoure de ce qu'ils ont fait pour intervenir à éteindre ce feu, justement après par les particules qui se sont propagées. Mais monsieur Macron nous précise qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Pourtant, d'après les riverains, les habitants de Rouen, des communes et tout ça, beaucoup de personnes ont été hospitalisées, justement pour des problèmes d'asthme, des problèmes justement de vomissement, justement des problèmes de respiratoire, des problèmes aussi, de nausées. Donc, tout ça, ça commence à devenir plus inquiétant. Et nous n'avons pas encore reçu les analyses précisément de ce qui se propage dans l'air, puisqu'il y a encore des particules qui se propagent dans l'air et qui ne sont pas encore justement précises. comme le précise aussi nos gros chercheurs analytiques. Voilà pour cette revue de presse pour ce lundi 4 novembre, mes très chers blabla mixeurs, blabla mixeuses sur le 99.1 à 17h15.
En tout cas, certains sentent encore les odeurs de Lubrizol dans Rouen. Alors, est-ce dans nos têtes? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je les sens encore parfois. Et puis surtout, certains facétieux. Vous, auditeurs de Ça vous concerne, vous en avez peut-être entendu parler, pense que la visite de M. Macron très impromptue à Rouen était peut-être tout à fait liée au fait qu'il aille tous les 1er novembre à Honfleur et que ça aurait été mal vu qu'il aille à Honfleur sans s'arrêter à Rouen. Je n'entrerai pas dans les rumeurs, je me contente de les relayer comme tout bon animateur le ferait, je pense. Je propose, donc, maintenant qu'on sait que ça sent Lubrizol et qu'on a froid sur les hauts de Rouen, d'écouter si les habitants ont peur sur les hauts de Rouen dans la tchatch des hauts.
Salut à tous, mes Hachdériens, mes Hachdériennes. Bienvenue dans la tchatch des hauts. Et la question du jour est-ce que les habitants du quartier se sentent en sécurité? Allons voir les habitants du quartier pour qu'ils puissent nous donner leur propre avis au sein du quartier des hauts de Rouen. Bonjour, est-ce que vous vous sentez bien dans le quartier?
Moi oui, j'ai toujours grandi ici et je partirai pas pour le moment, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que ça en a gagné par rapport à quelques années en arrière, personnellement. Et puis, pourquoi partir si on trouve pire ailleurs? Parce que parfois, on ne sait pas. Hein. Voilà.
Mais quand vous parlez des années précédentes, c'était comment?
Dans les années 90, hein, là, c'était vraiment les émeutes et tout. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qui, aujourd'hui, c'est calme, moi, je trouve, personnellement. D'autres diront autre chose, mais pour moi, je trouve que c'est calme par rapport à avant.
Ça fait combien de temps que vous habitez sur les Hauts-de-Rouen?
30 ans, voilà. plus de 30 ans, même.
On se sent bien. Après, c'est vrai, c'est comme dans toutes les cités de France. Mais il y a du bon, il y a du mauvais. Mais moi, je pense que les cités sont laissées à l'abandon par l'État. Après, il n'y a rien pour les jeunes. Déjà, à mon époque, j'étais jeune, il n'y avait pas grand-chose pour nous. Et pour les jeunes qu'il y a maintenant, il y a encore moins. Donc, il faut que quelque part, l'État prenne ses responsabilités, qu'il fasse quelque chose de positif. Parce que quand on voit dans Paris-Normandie, quand on parle des quartiers, il y a très peu de revalorisation. C'est toujours de la délinquance, on parle de délinquance. Mais on ne parle jamais de ce que les gens font de bien, ce qui... Comment expliquer ? Il n'y a pas de mots pour tout ça. Faut vivre dans les cités, grandir dedans pour voir comment ça change.
Ça fait combien de temps que vous habitez sur les Hauts-de-Rouen?
Moi, je suis né sur les Hauts-de-Rouen.
Parce que les gens sont assez corrects. Il y a, à mon avis, moins de problèmes qu'il y a eu il y a quelques années.
Combien de temps?
Il y a 4 ans. 4 ans, c'était des voitures qui brûlaient, des choses comme ça. Maintenant, le problème, c'est plutôt le nettoyage dans les immeubles où les gens font tout et n'importe quoi. Ils laissent des sacs poubelles traîner, des papiers, on urine dans les ascenseurs, voilà, c'est ça.
Sinon, vous ne sentez aucun danger sur le quartier? On peut se promener en sécurité?
On ne peut pas dire aucun danger, il y en a toujours un. C'est certain que si on se promène à une certaine heure du soir, peut-être que ça peut attirer certaines personnes à ce moment-là. Mais sinon, je me sens assez bien ici, oui.
Oh, ça va, j'ai rien à plaindre, j'ai rien à dire.
C'est mieux avant ou maintenant?
Oh, c'est mieux maintenant. Hein. Mm-hmm. Avant, il y avait un peu le bordel en parlant pour les bords, mais c'est vrai, c'est mieux maintenant.
Nous interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ça marche ? Ah, oui.
99. Ok. Pas de temps à perdre avec de la musique pour le moment, chers auditeurs, mais ne paniquez pas, on en écoutera tout à l'heure. Mais d'abord, on va écouter, donc je vous les annonçais, les amis Ismaël et Nordine, des élèves de CE1 de l'école des Rameaux, qui vous ont préparé un haïku.
Sont mortes, les arbres changent de couleur, les arbres sont jaunes. Ismaël Nordine.
Projet Poésie, réalisé dans le cadre d'un jumelage avec les élèves de l'école Marot et la compagnie Saëla, Nicolas Lelièvre, Grégoire Landais et Céline Gouel.
Voilà donc pour les haïkus, vous allez en retrouver, si j'ai bien compris, assez régulièrement dans les prochains jours. Restez à l'écoute, moi j'aime bien ça les haïkus. Et puis sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est le festival Chandelle, et je vous propose qu'on écoute tout de suite la première capsule du festival Chandelle qui vous a été concoctée.
Chandelle. Festival Chandelle. La capsule. L'extrait du café chanson du festival Chandelle provient de cette émission diffusée initialement le 19 novembre 2018 au pôle régional des savoirs à Rouen. L'artiste qui répondait aux questions d'Anne-Marie, animatrice de l'émission, n'était autre que Marianne Aya Omak, marraine de l'édition 2018 du festival Chandelle.
Avant d'entrer dans le cœur de l'émission, je vous présente les personnes qui sont autour de moi. Donc Marianne Aya Omak, c'est la marraine de notre édition 2018 du festival. Mais pour commencer, je vous propose qu'on démarre en chanson avec Marianne. Et puis ensuite, on échangera ensemble.
Nobody cares for Congo. Nobody cares for Congo. Nobody cares for Congo. Nobody cares. Nobody cares for Congo. Nobody cares. Listen, Mama. Listen, Papa. Laissez tout ce que tu aimes, laissez là-bas. Laissez grand-mère, laissez grand-père. Laissez tout ce que tu connais, tout laisser derrière. Nobody cares for Congo, nobody cares. Nobody cares for Congo, nobody cares. Ta terre pillée, dépouillée, devenue comme un cimetière. Et toi, si jeune, qui n'a connu que la guerre. Des ruines et des cendres, trop de larmes amères. Ils ont violé les femmes, tu n'as pas autre choix que de prendre les armes ou de prendre la mer. Nobody cares for Congo, nobody cares. Nobody cares for Congo, nobody cares. Voir petit frère tomber, voir grande sœur se noyer. Faire face à la peur, à la terreur, à l'horreur. Traverser tant de pays, finir comme esclave ou arriver jusqu'ici. Oser croire encore à une autre vie, quel que soit le prix. Nobody cares for Congo, nobody cares. Nobody cares for Congo, nobody cares. Vente d'armes au profit de la finance. Une guerre passée sous silence. Vente d'armes au profit de la France. Tant pis si je vous offense. Il est temps de dire ce que tout le monde pense. Une guerre comme on les aime. Loin de chez nous, plus de problèmes. Une guerre comme on les aime. Loin des yeux, pas de dilemme. Tant pis si ça vous gêne. La vérité n'est pas un blasphème. Nobody cares for Congo. Nobody cares, nobody cares, nobody cares. I said nobody cares for Congo. Nobody cares. Nobody cares, nobody cares. De chez toi à la jungle, de la jungle à nulle part. de nulle part jusqu'à toi-même. Dieu est ton pays.
Merci Marianne. Donc, je vous le disais en... Alors, Marianne, j'ai un peu lu des choses sur vous, et donc vous avez bougé aussi beaucoup. Enfin, vous avez commencé à chanter dans la rue, vous êtes allée au Mexique, vous êtes allée à Montréal. Est-ce que ces déplacements sur différents espaces ont inspiré votre créativité, l'écriture de vos chansons, la musique?
Ah ben oui, bien sûr, c'est une vraie nourriture. Déjà, le fait d'être partie vivre au Mexique, malgré les apparences que vous ne voyez pas, puisque nous sommes à la radio, je n'ai pas d'origine latino-américaine, mais j'ai appris vraiment l'espagnol là-bas. J'ai vécu en immersion totale, et donc c'est vrai que ça a influencé, ça m'a ouvert toute une porte sur la musique latine et sur ma musique latine que je ne connaissais pas. Et rien que de parler en espagnol, c'est déjà de la musique. C'est une langue qui est très musicale. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une source d'inspiration qui est très différente du français et qui m'implique de manière différente aussi, puisque ce n'est pas ma langue, donc l'implication n'est pas la même. Mais bien sûr, les voyages, c'est une nourriture à tous les niveaux.
Alors, je fais un petit détour par votre nom. On en a parlé à midi. Hein. Marianne s'appelle, son nom d'artiste, c'est Marianne Oyaomac. Et donc, on pourrait penser, enfin, voilà, on pensait qu'elle était amérindienne, mais pas du tout, en fait.
Et non, et pas
donc,
du tout.
Je sais pas, en fait, je suis... c'est une jolie histoire, votre nom de scène.
Oui, mon nom de scène. En fait, mon vrai nom, c'est Marianne Cambournac. Voilà, c'est très décevant, c'est Aveyronnais, en fait. Donc, je suis pas du tout amérindienne, je suis aveyronnaise. Donc, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes Indiens, là-bas. Et quand j'étais petite, j'arrivais pas à dire mon nom, et je disais que je m'appelais Aya Omak. Et quand j'ai cherché un nom d'artiste, je ne voulais pas m'appeler que Marianne parce que je trouvais que c'était un peu trop hebdomadaire et républicain. Il me manquait un petit peu quelque chose. Vu que ma musique est sans frontières, voilà, il fallait... Et puis je me suis dit, mais en fait, Aya Omak, c'est un pseudonyme, mais c'est moi, c'est mon vrai nom. Et c'est le nom que je me suis donné à un âge où je n'avais pas encore tous les préjugés que je peux avoir sur les uns et les autres et sur moi-même, tous les filtres que notre territoire intérieur nous impose. Et voilà, donc je me suis dit, bah là, c'est mon nom d'artiste, c'est mon vrai nom. Mais voilà, c'est pas amérindien du tout.
C'est une belle histoire, moi, je trouve.
Ouais.
Je sais pas, on va peut-être en parler maintenant. Je crois qu'il y a une rencontre importante dans votre vie artistique, c'est la rencontre avec John Baez. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la filiation de John Baez? Enfin, cette rencontre, est-ce qu'elle a modifié des choses dans votre façon de travailler? Est-ce qu'elle vous a nourri? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre avec elle?
En deux minutes?
Non, je sais que ça peut demander plus de deux minutes.
Non, je vais essayer de faire court. En fait, ma première rencontre...
Un peu de temps quand même. Hein.
Oui, d'accord. Ma première rencontre, en fait, avec John Baez s'est faite quand j'avais 13 ans, quand ma mère m'a fait découvrir avec un vinyle qu'elle venait d'acheter... cet artiste, et quand j'ai entendu Joan pour la première fois, sa voix et ce que j'ai vu dans les yeux de ma mère m'a tellement touchée que je me suis dit, ben c'est ce que je veux faire, en fait, je veux être chanteuse et jouer de la guitare. Donc ça a été quand même une première influence dans ma vie qui était assez énorme. Ça a changé ma vie, bien sûr. Ensuite, donc c'est vrai que j'ai eu l'incroyable miracle de rencontrer cette femme. Je vous invite à aller sur mon site marianneayaomac.fr pour aller découvrir la vidéo de la rencontre, parce que c'est trop long à raconter. Mais donc j'ai eu la chance de la rencontrer, et puis du coup d'être invitée chez elle, dans sa maison, de faire 37 concerts avec elle, invitée en duo. Donc c'était complètement incroyable, d'abord parce que c'était mon idole, c'est la personne qui m'a vraiment inspirée. Et oui, quelque part, je me suis toujours sentie en filiation, comme une espèce de famille d'âme d'artiste qui essaye de faire ce métier le plus possible en conscience et avec une certaine responsabilité, en fait. Donc oui, voilà, c'est vrai que je m'inscris plutôt dans cette famille-là d'artistes. Et c'est vrai que la rencontrer m'a confortée sur ce chemin-là, en tout cas.
Peut-être on peut avoir une deuxième chanson ?
Ah ben oui. La chanson qui suit, c'est un poème qui a été écrit par une de mes voisines dans mon tout petit village à côté de Montpellier. C'est une chanson qui lui a été inspirée par son grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui apparemment n'a jamais cessé de témoigner. Et le jour où j'ai lu ce poème, je l'ai trouvé tellement beau, tellement simple, tellement juste que j'ai entendu de la musique tout de suite dessus. Ben voilà, ça fait ceci. L'enfer et je m'en suis tirée, mais j'ai sauvé ma vie au prix de tellement d'autres que j'éprouve un remords d'être parmi les vôtres. J'ai lancé des grenades pour me lancer des fleurs et pour avoir tué m'accueillir en vainqueur. Quand je vois cet enfant qui m'apporte une gerbe, je pense que là-bas d'autres dorment sous l'air. Oui, je reviens de guerre, on dit qu'on a gagné, mais pour l'amour de Dieu, cessez de m'acclamer. Car si je suis ici, c'est que d'autres sont morts, et leurs cris d'agonie me poursuivent encore. Qu'on ne me dise pas que j'ai des ennemis, je n'ai vu que des hommes transformés en soldats. Obligé à faire ce qu'il ne voulait pas. Oui, je reviens de guerre, mais je vous en supplie, ne me demandez pas d'être fière d'être ici. J'ai fait comme les autres, je me suis défendue, je ne voulais pas mourir, mes adversaires non plus. Ce n'est pas la violence qui nous faisait agir, mais une peur immense de ne plus revenir. Pour vous c'est terminé, vous chantez la paix, moi je pleure ces morts qui ne m'avaient rien fait. Oui, je reviens de guerre, mais vos chants de victoire n'effaceront jamais l'horreur de ma mémoire. Je crois entendre un bruit, celui du corps d'un homme qui tombe et le dernier soupir de celui qui succombe et le dernier regard de ceux que j'ai tués m'a placé pour toujours au banc des accusés. Arrêtez la fanfare, rangez tous vos drapeaux, je suis un criminel, je ne suis pas un héros.
Culture 99.1.
Voilà qui était sacrément fort comme instant. Bon, l'heure est venue de passer à notre invité et on va essayer de se remettre en forme donc avec Art et Déchirure, donc monsieur José Sagitt qui attend gentiment depuis le début de cette émission dans le studio. Rebonjour monsieur Sagitt. Alors parlons donc de Art et Déchirure. Art et Déchirure, qu'est-ce que c'est ?
Art et Déchirure, c'est un festival qui fête cette année ses 30 ans. Et sa 17e édition. Donc, le premier festival a eu lieu en octobre 1989. Et là, nous allons, à partir du 14 novembre, commencer la 17e édition. C'est un festival qui regroupe toutes les formes d'art. Il y a du théâtre, il y a des arts plastiques, il y a eu de la musique. Il y a beaucoup de disciplines artistiques différentes. Et c'est un festival qui est né il y a 30 ans, quand Joël Delaunay et moi-même, nous étions soignants au centre hospitalier du Rouvray. Et nous nous occupions à cette époque de l'animation socioculturelle pour les patients de l'hôpital. Voilà, c'est comme ça que c'est né, de cette envie de montrer un peu les créations de personnes qui étaient un petit peu à la marge, un peu marginales du fait de leur souffrance.
C'est de là que vient le terme déchirure dans le nom arrêt déchirure.
Oui, c'est ça, tout à fait. Le terme vient de là parce que On a préféré ce terme à celui de folie, qui est parfois un petit peu effrayant, un peu rebutant, alors que la déchirure, finalement, elle nous concerne tous. On a tous nos failles, on a tous nos accros. Parfois, c'est un petit accro de rien du tout, puis parfois, ça peut être un gouffre béant.
Effectivement, d'ailleurs, vous nous parlez donc du centre hospitalier du Rouvray. Je crois que c'est important de revenir là-dessus, puisque c'est quand même relativement incongru. Donc, non seulement à l'époque, c'était un festival qui mettait en avant des créations donc des patients, je ne dis pas de bêtises, en partie. Et aujourd'hui, donc, je crois que ça fait 2 ans, il me semble, vous exposez régulièrement là-bas. Vous avez donc maintenant un musée arrêt déchirure là-bas, c'est bien ça?
Oui, ça, absolument. Quand on a créé le festival, on est sorti de l'hôpital. On voulait montrer à l'extérieur des créations qui nous semblaient artistiquement de qualité et de valeur. Donc pour ça, on a voulu faire sortir ces œuvres de l'hôpital psychiatrique. Ceci étant, tous les artistes que nous exposons n'ont pas passé de temps à l'hôpital. Pour certains, n'y sont jamais allés d'ailleurs, peu importe. Et dans les spectacles, ce sont des spectacles qui traitent du sujet avec des créations qui sont nées parfois dans des hôpitaux psychiatriques, parfois dans des structures de personnes handicapées mentales, ou alors ce sont des compagnies que j'appellerais ordinaires qui traitent du sujet. Pour revenir au musée, effectivement, pour nous, ça a été un retour, parce qu'on avait donc quitté l'hôpital pour créer le festival, et on y est revenu avec la création de ce musée, qui existe depuis octobre 2017, dans lequel nous exposons des artistes et aussi une grande partie de la collection d'art et déchirure. Au fil du temps, nous avons constitué une collection d'œuvres, et environ 400 œuvres peut-être, un peu plus, je ne sais pas. Et c'était un peu dommage de pas les montrer. C'est à quoi ça sert d'avoir une collection si personne ne peut la voir. Donc on a cherché, je vous avoue qu'on a même cherché plutôt en ville d'ailleurs à l'époque. On avait plutôt envie de faire ça à l'extérieur. Et puis devant la difficulté, et puis devant ce beau, très très beau bâtiment qui est le nôtre maintenant, on a eu envie de s'installer, de revenir dans l'hôpital et d'y installer notre collection.
Fino, tu avais une question.
Oui, voilà, je voulais savoir comment s'est passé, comment s'est déroulée justement la sélection des artistes. Comment font-ils pour justement participer à ce festival?
Il y a plusieurs façons de faire. Enfin, en général, au tout départ, on cherchait un peu. C'était nous qui cherchions un peu à droite, à gauche. On essayait de parler de notre festival et puis de voir un petit peu si ça suscitait des envies et des intérêts. Et je dois dire que maintenant, au bout de 30 ans, on cherche un peu moins. Les gens viennent plus beaucoup vers nous. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, pour les arts plastiques, on fait un appel à candidature. Et là, Joël a reçu, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 200 propositions. Enfin, c'était assez énorme, les propositions. Après, c'est la rencontre qui fait que on est touché ou pas par ce qu'on nous montre. Il y a aussi une question d'avoir une exposition qui a une diversité. S'il y a 2-3 artistes qui sont un petit peu dans la même veine, on va en prendre qu'un. Vous voyez. Tout ça aussi, c'est la rencontre. Là, on tient beaucoup à ce que on n'expose pas seulement les gens, on a envie de les connaître et de voir comment ils vivent, comment ils travaillent et qu'est-ce qu'ils mettent derrière leur œuvre.
D'accord. Je voulais justement, ces artistes-là, c'est des artistes professionnels, c'est des amateurs. Est-ce que c'est des gens qui y connaissent au métier ou qui font découvrir seulement le métier? Comment cela se passe pour concocter tout ces pièces, justement?
Alors, pour le théâtre, c'est un petit peu différent parce que le théâtre, c'est quelque chose de très structuré. Il faut un metteur en scène, il faut du temps, il faut des lieux de répétition. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu différent. Et les créations artistiques, enfin, au niveau du théâtre, quelle que soit leur origine, c'est toujours un peu la même manière. Pour ce qui est des artistes, des plasticiens, c'est un petit peu différent. Ce qui caractérise un petit peu ce que nous, nos artistes, on les appelle des artistes singuliers. Le musée, d'ailleurs, ça s'appelle le musée Art et Déchirure d'Art Singulier. Ce sont des artistes singuliers. Ce qui les caractérise quasiment tous, c'est d'être des autodidactes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont fait des études artistiques. Ce sont des gens qui ont eu un besoin de créer, qui n'ont pas forcément eu l'idée de créer pour montrer. Ils ont fait d'abord pour eux, parce qu'ils avaient quelque chose à dire à travers ça. D'abord pour eux-mêmes. Ce n'est pas des gens qui ont imaginé vendre leur production, etc. Et peu à peu, s'ils ont acquis une reconnaissance, il y a des gens qui vivent de leur art, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui vendent parfois même très bien, puisqu'il y a une certaine vogue, on va dire, aujourd'hui de ces artistes-là. Mais globalement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas un parcours d'études artistiques, et qui crée aussi, c'est ce qui est assez, vous verrez si vous regardez la programmation du festival, c'est des gens qui créent aussi avec des matériaux très très différents. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Le bois, le fer, la récup, beaucoup d'artistes de la récupération, le tissu, enfin vous voyez, tout, c'est très très varié, très variable.
D'accord. Vous nous parlez de ce fameux terme art singulier. Moi, j'ai envie de revenir dessus parce que, bon, on en a discuté un petit peu avant cette émission, vous étiez fort intéressant sur le sujet. Pourquoi ce terme art singulier ? Qu'est-ce que c'est que l'art singulier ?
Bah, c'est-à-dire qu'au départ, il y a l'art brut, ce qu'on a appelé l'art brut. C'est-à-dire que il y a un créateur qui s'appelait Jean Dubuffet, dont vous avez certainement entendu parler. Jean Dubuffet a inventé ce terme pour justement l'attribuer à ses créateurs qui étaient inclassables, qui ne se reconnaissaient dans aucune école de l'art classique ou de l'art contemporain. Et en fait, il a créé une collection, lui, d'art brut, qui est maintenant à Lausanne. C'est le plus grand musée d'art brut au monde qui se trouve à Lausanne. Et en fait, si vous visitez ce musée, vous apercevrez qu'en regardant un peu l'origine des artistes, des œuvres, il y en a à peu près 80% qui viennent des hôpitaux psychiatriques. Parce que c'était effectivement dans ces lieux-là, dans les lieux d'enfermement, dans les lieux d'isolement, où il y avait cette expression qui se mettait en œuvre. Alors après, on est passé à singulier, parce que brut, l'art brut, Dubuffet avait tellement mis une définition restrictive qu'aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut se reconnaître dans ce terme d'art brut qu'il avait défini de façon trop précise peut-être. Et du coup, on a inventé d'autres mots. Nous, on parle d'art singulier. Il y en a qui parlent d'art en marge, d'art hors norme. Bref, il y a quantité de mots pour dire un peu les mêmes choses finalement.
D'accord.
Antoine.
Oui, justement, je voulais savoir, est-ce que par rapport au lieu où vous êtes justement au centre hospitalier de Saint-Étienne-du-Rouvray, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des ateliers qui se sont mis en place ? Est-ce que justement ces personnes qui sont atteintes de maladies quelconques, de schizophrénie, ou ça, participent à ces ateliers-là ? Comment dire ? Parce que bon, faut dire que c'est une maladie où bon, malheureusement, des gens sont atteints et atteints aussi. Et je voulais savoir s'ils participent, comment ça se passe, comment ça se déroule ? Est-ce que c'est toujours la même recette chaque année par rapport au festival
Non, dans le festival, il y a des artistes qui travaillent dans des ateliers comme cela, dans des hôpitaux ici ou ailleurs. D'ailleurs, au centre hospitalier du Rouvray, on expose le chantier et un hôpital de jour à Saint-Gervais. Là, voilà. Ce sont deux ateliers qui sont animés par deux artistes, Erwan Autray et... Je ne me souviens plus du nom de la deuxième personne.
On va
la retrouver dans le... J'en suis désolé. Béatrice Burel. Voilà, c'est des artistes qui animent des ateliers. Et dans ces ateliers, comme à la MGN de Rouen aussi, on a eu très souvent, on les a exposés. Il y a des artistes qui montrent un talent peut-être un peu plus affirmé que d'autres. Et donc, nous, on les expose. Et sinon, beaucoup sont des artistes qui travaillent chez eux, ou dans des ateliers, etc. Mais beaucoup, c'est chez eux, dans l'intimité de leur foyer, de leur vie. Mais partout, un peu en France, je dirais, un peu partout dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des ateliers d'expression artistique.
Et ils jouent des pièces ?
Il y a des spectacles, bien sûr, comme dans un peu tous les lieux comme ça, où les gens restent très longtemps, il y a des spectacles qui sont montés. Très longtemps, j'ai proposé des spectacles qui venaient de plutôt psychiatrique, parce qu'ils avaient vraiment une très très grande qualité artistique, et ça valait le coup de les mettre sur des scènes, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les restrictions de budget, de personnel dans les hôpitaux font que... Malheureusement, c'est vers ces activités-là qu'on touche d'abord. C'est-à-dire que quand on supprime quelque chose, c'est plutôt du côté de l'artistique que du côté du soin pur. Et c'est un peu dommage, Mais voilà, l'époque est malheureusement aux restrictions.
D'accord. Qu'avez-vous ressenti? Pouvez-vous me faire un petit diagnostic de par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'ils s'extériorisent quand ils participent à ces ateliers-là? Est-ce que c'est une sorte de thérapie, de traitement peut-être aussi?
D'ailleurs, j'aime bien votre question parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Mmh. Est-ce que l'art, ça soigne?
Oui.
Voilà. Eh bien, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que ça nous fait du bien, par contre. Ça nous fait énormément de bien. Moi, je disais tout à l'heure, en discutant un petit peu, j'ai fait du théâtre pendant très, très longtemps. Et je sais que ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie, dans ma personnalité, dans mon rapport avec les autres, etc. J'ai des enfants qui ont fait de la musique, et ben je vois bien combien ça les aide aussi à vivre et tout ça. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne fasse pas cet effet-là sur des gens qui sont atteints de troubles mentaux, par exemple.
Tout à fait.
Vous voyez ? Je ne pense pas que ça soigne, personnellement.
Je vous proposerais bien qu'on revienne à la question du théâtre après un petit morceau musical avec M. Sagitt. Donc, et là, nous, on va s'écouter Les Rimailleurs, c'est de l'amour sur Radio HDR.
J'espère qu'on a prévu ma part. Si l'amour est un train, je suis certain qu'il est en retard. Il est rare comme une pute qui va toucher un pourboire. Il est sale et pourtant tu rêves de le foutre dans ton plumard. Ok, c'est vraiment le bouquet. Sur cette fille j'ai bloqué comme un coin de ciel bleu. Sur la plage j'ai touqué comme Mickey Rourke. J'ai 9 secondes et demie pour montrer ma belle gueule ou la boucler. Je manque pas de cran, j'en ai marre de faire ceinture. Si t'aimes l'art, je te promets alors qu'on se verra en peinture. Pour écrire notre histoire, on évitera les ratures. Et si t'aimes les enfants, je serai complètement immature. En vivant en harmonie, j'aime pas quand le son sature. J'aime la fête, toi aussi. Alors, pourvu que ça dure, je partage tout, je t'assure. Mon sentiment, c'est facture. Ne brise pas mon cœur, je suis allergique aux fractures.
La vie, les potes, les filles, ils pensent à l'amour.
De se couper, tu te la pètes dans ton coupé sport. Malgré tout, je n'ai pas perdu tout espoir. Je sais pas pour toi, mais moi je dispo des soirs. Quel beau potin, je voudrais l'avoir pour mon goûter. Je me dis que tôt ou tard, je finirai bien par t'envoûter. Tu sais que tu me plais, ou au moins tu dois t'en douter. Je prendrai mes couilles à demain avant de repartir dégoûté. Je te dirai les mots bleus si c'est la couleur que tu préfères. Je serai un cordon bleu si la cuisine tu sais pas faire. Je ferai le tour de la planète bleue, mais pas en solitaire. Et tu me prêteras ta carte bleue, car un couple c'est solidaire. En amour, je suis qu'un bleu, mais cette histoire ça me renverse. Dans mon cœur, j'ai des bleus, quand je ris jaune, ça me renverse. Comme dans le grand bleu sous l'eau, je manque pas d'air. Je t'attendrai même s'il pleut sous mon lampadaire.
La vie, les potes, les fileux, ils pensent c'est de l'amour. Dans les films, les livres, on est chanson, c'est de l'amour. Ce qui te fait souffrir le soir dans ton lit, c'est de l'amour. Ce qui te fait sourire comme un abruti, c'est de l'amour.
Si l'amour est une quête, j'ai pas la bonne boussole. Je suis perdu sans toi et je veux pas dormir tout seul. Je veux pas remuer tout ça, après ça me rend malade. Je mange plus de légumes, tu m'as trop sorti de salade. Je suis tellement écœuré, je lâche plus mon sac à vomi. Tu me saoules comme Campbell, t'es plus garce que Naomi. Ça me paraît si loin, comme une ferme du Wyoming. Je reste sur le cul, je me suis fait bâcher par Yaomi. T'as claqué la porte et la baraque s'est écroulée. J'aurais dû changer l'horloge, j'ai pas vu le temps s'écouler. On était dans le même bateau, malheureusement il a coulé. Cupidon menait la barque, mais il devait être bourré. Aucun contrat de confiance, j'aurais dû passer chez Darty. J'étais ton Jacques Dutronc, toi ma Françoise Hardy. Je voudrais revenir en arrière, comme Doc et Marty. Je m'attais Doc sur Arte, chaque nuit depuis que t'es parti.
Le vaincu ne peut qu'assister impuissant à la prise de possession de son harem par le nouveau maître des lieux. Les femelles sont priées d'obtempérer et les petits de s'écarter au plus vite.
Au-delà de l'humour, Rimailleurs c'est de l'amour. Ajoute de l'alcool et des pouces, Rimailleurs c'est de la bourde. Dès que ces mecs ouvrent la bouche, je dis c'est de la menthe. Mais c'est faux, on est vrai, on est frais. C'est de la menthe qui tombe de ton plafond quand les gens s'aiment. C'est de l'amiante qui tombe du ciel et que les oiseaux s'aiment. C'est de la fiance qui manque à ton cornet pour qu'il y ait la frite. C'est de l'amour pour que ton cœur sonne, sonne, sonne. Un peu comme de la soule. En attendant, écoute ce son et dis-toi que la vie c'est cool. Même si toi tu fais l'amour, quand d'autres font l'amour. Rimailleurs, beau parleur, dans tes hauts parleurs, c'est un super bon coup. N'importe où, à n'importe quelle heure. C'est comme un coup de coude plus fort qu'un coup de poutre. C'est comme un coup de feu avec beaucoup de poudre. Tu voulais un coup de pouce, t'as reçu un coup de foudre. Si ça te trouve le cul, ça vaudrait le coup de coude.
La vie, les potes, les fileux, ils pensent c'est de l'amour. Dans les films, les livres, on est chansons, c'est de l'amour. Ce qui te fait souffrir le soir dans ton
Les Rimailleurs, c'est de l'amour sur Radio HDR et Principe Actif, c'est le mix des cultures.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et nous sommes donc de retour avec Monsieur Sagitte. Monsieur Sagitte, j'espère que vous allez me pardonner ce jeu de mots, mais vous êtes fort bien nommé, puisque si Monsieur Joël Delaunay, dont vous nous parliez tout à l'heure, s'occupe de tout ce qui est côté art plastique dans le festival Art et Déchirure et donc au musée d'art singulier Art et Déchirure, vous-même, Monsieur Sagitte, vous occupez des arts de la scène, si je ne m'abuse, et vous nous parliez tout à l'heure de votre volonté également de faire sortir le festival du centre hospitalier, centre hospitalier Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est ça, ou Sotteville-lès-Rouen?
Tout à fait. Il est à cheval sur les deux.
C'est à la frontière. Hein, j'ai grandi à côté.
C'est ça.
Donc, eh bien, justement, les arts de la scène, on se doute bien que vous ne pouvez pas les pratiquer aisément dans le centre hospitalier. Néanmoins, on en parlait tout à l'heure, vous les pratiquez à la Chapelle Saint-Julien et également à la Halle aux Toiles, donc.
Chapelle Saint-Julien et Halle aux Toiles sont les expositions.
D'accord, ok. Mais alors,
les spectacles, ils sont effectivement, parce que c'est difficile de faire des spectacles hors des lieux de théâtre et de spectacles. Donc, les spectacles seront joués à l'Étincelle, le théâtre de la ville de Rouen, c'est-à-dire à Chapelle Saint-Louis et Salle Louis-Jouvet, ici.
D'accord.
Là, puisque depuis quelques années, à chaque festival, on tient à avoir un spectacle dans la salle Louis-Jouvet. Et au CDN de Rouen-Normandie, oui. chez David Bobet, qui nous accueille dans ces trois salles. Également à la Maison de l'Université, à Mont-Saint-Aignan, et à l'espace culturel François Mitterrand de Canteleu.
Voilà. Ok, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Par exemple, vous avez un exemple d'art singulier de la scène?
Ah, j'ai pas... Oui, si vous voulez, j'ai un exemple d'art singulier de la scène, oui. Un spectacle qui s'appelle Nanetti, le colonel astral. Pourquoi d'art singulier? Parce que l'artiste Nanetti, qui était un artiste italien, qui était interné à l'hôpital psychiatrique de Volterra, en Italie, a gravé une partie d'un mur dans l'hôpital avec sa boucle de ceinturon. Il a gravé comme ça, un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez à Rouen, Alain Raux, qui grave qui vit autour de la gare et qui grave les portes, les plaques de chantier, etc. Bon, Nanette, il a fait ça et il a écrit aussi beaucoup. C'était un personnage qui était extravagant, très, très délirant et qui a fait tout ce travail-là. Et il y a quelqu'un qui était un petit peu plus fou que lui, d'ailleurs, qui a essayé de déchiffrer tout ce qu'il avait écrit. Mmh. Parce que si vous voyez le mur, c'est assez, assez incroyable. Et il en est sorti des textes, des phrases, des expressions, etc., que Gustavo Giacosa, qui est comédien et metteur en scène italo-argentin, un mec qui vit à Aix-en-Provence, a décidé de porter à la scène. Et ça fait un spectacle tout à fait étonnant qui sera à la Chapelle Saint-Louis. Enfin, c'est un très, très beau spectacle qui respecte beaucoup la création, finalement, de ce Nanetti, colonel astral.
Alors pour en revenir un petit peu aux arts plus graphiques, si je puis dire, j'ai cru comprendre qu'à la Chapelle Saint-Julien, vous faisiez une exposition réservée à un seul artiste. Qui est-il? Que lui vaut cet honneur?
C'est Fabien Chevrier, qui est un artiste qu'on a déjà exposé plusieurs fois, et avec lequel on entretient une relation amicale et très... c'est des échanges très, très sympathiques avec lui. Enfin, c'est même un peu plus que sympathique, c'est quelqu'un de très attachant, qui a une belle production et une expression très, très personnelle. Il travaille beaucoup avec des objets, notamment des matériaux. Il a dans le parc du musée, il expose une espèce de moto qu'il a fabriquée à partir de briquet de broc avec son fils. Et ça faisait quelques années avec Joël. Joël se disait, faudra un jour qu'on lui donne la possibilité de montrer un peu plus que... Parce que, évidemment, dans les expositions à l'Haute Toile, il y a une quarantaine d'artistes. Donc, on ne peut pas exposer énormément de choses de chaque artiste, même si on tient à ce qu'il y ait une diversité dans ce qu'on montre. Mais du coup, la Chapelle Saint-Julien, c'est l'occasion pour un artiste de s'installer, de s'approprier le lieu, qui est quand même assez magnifique. Hein. C'est un très bel écrin. Et de composer, de mettre en scène sa production.
Bon, c'était idiot de ma part de commettre tout. L'erreur de croire qu'il y avait des arts de la scène, en l'occurrence à la Lotoile, alors que sur votre site internet, le très bien nommé artetdeschirures.fr, si je ne m'abuse, ouais. On peut retrouver donc des exemples de la collection qu'on va pouvoir retrouver à la Halle aux Toiles. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement éclectique. Certes, il y a des choses, bon, art brut, on voit de la, je sais même pas comment on peut dire, de la métallurgie, enfin des sculptures en, oui, en métal qui font un peu métal ramassé et tout ça. Mmh. Il y a quand même, par exemple, bon, un tableau, certes un peu incongru, mais qui m'a marqué, c'est ce monsieur peint dans un grand moment d'intimité, donc sur ses toilettes. On a vraiment de tout, c'est extrêmement éclectique. Qu'est-ce qui unit ces œuvres? Comment vous décidez quelle œuvre vous allez mettre? Parce que je sais que mon collègue vous a posé la question tout à l'heure, mais là, en l'occurrence, face à tant d'éclectisme, on est obligé de se reposer la question.
En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, ce qui détermine un petit peu notre choix, enfin, Joël le dirait mieux, certainement mieux que moi, mais c'est vraiment la rencontre avec l'artiste. C'est ce qui fait sens pour nous, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ou en tout cas de voir ce qui se passe entre l'artiste et sa création. C'est-à-dire, vous parliez de ce monsieur là, qui est peint dans les toilettes.
Oui, il m'évoque chacun de mes lundis matins.
Mais voilà.
Grand moment de déchirure.
C'est un personnage très très. Voilà, c'est assez. Un peu désespéré et désespérant, comme l'image du buste qu'il a fait à côté, c'est Ismaël Moret, et qui peint une humanité qui est, bon, voilà, un petit peu terrible, peut-être. Voilà. Et puis, il y a des choses plus douces, malgré tout, même si chez Franck Paulin, chez Éric Démélis, il y a quelque chose de presque enfantin, mais en même temps, on voit bien que cette obsession du trait, ce remplissage, il y a quelque chose derrière ça, quoi, qui n'est pas juste je m'amuse à dessiner. Quoi.
C'est vrai que tout ça évoque une sorte de déchirure humaine, je crois que le terme est vraiment bien choisi. Oui.
Tout à fait.
Je vais me lancer dans une comparaison peut-être audacieuse, je compte sur vous pour me rétablir dans le droit chemin si je m'abuse, mais moi ça me fait beaucoup penser aux œuvres de Francis Bacon.
Certaines, oui, bien
sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une inspiration de Francis Bacon chez certains artistes?
Je pense pas qu'il y ait une inspiration de Bacon. Je pense que beaucoup, d'ailleurs, parmi eux, ne connaissent pas forcément Bacon. Je pense que c'est que ce qui a conduit Bacon à réaliser ces personnages, cette humanité, parce que lui dit que c'est pour lui sa vision de l'humanité, de la chair, des corps qui se et des visages surtout qui se décomposent. Je pense que chez certains artistes qui sont dans nos expositions, il y a peut-être un parcours qui est un peu similaire, une réflexion qui va être un petit peu similaire, une vision un peu difficile, dure du monde dans lequel on est et d'humanité dans laquelle on vit.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Sagit, d'être venu nous parler de votre fameux festival. Et puis, merci beaucoup également de l'organiser, de nous permettre à nous, Rouennais, d'avoir accès à des œuvres. Finalement, pour de l'art contemporain, je trouve ça extrêmement accessible. Antoine, tu voulais dire quelque chose avant qu'on ne se sépare?
Oui, je voulais dire, je vous remercie beaucoup, monsieur, pour nous avoir fait partager ça aux auditeurs, aux auditrices, et bien sûr, Talent Chandement. N'oubliez pas que ce festival fête ses 30 ans pour la 17e édition, c'est ça?
Absolument.
Alors, le festival d'art de la déchirure, et ça sera le...
Du 14 au 22 novembre.
Tout à fait. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que nous avons des super places à faire gagner, justement... À faire rappeler. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour justement lâcher vos commentaires et de vous inscrire pour gagner ces fameuses places-là pour ces concerts qu'il y a. Tu peux nous le rappeler justement?
Eh oui, je vais vous le rappeler. Tu fais bien d'en reparler, mon cher Fino. Mon cher Fino Antoine, hein, je slalom entre les deux depuis tout
toujours
à l'heure. Puisqu'on a bien sûr des places à faire gagner pour Max Romeo, ça c'est mercredi. Pour Nubian Twist, ça c'est jeudi. Et pour RK, ça c'est samedi. Envoyez-nous un message avec votre nom, votre prénom et l'artiste que vous voulez aller voir sur la page de Radio HDR. Nous, on s'occupe du reste. Et puis voilà, venu le moment de la grande déchirure, la séparation. On se dit au revoir. On salue l'ami Ousmane qui ne peut pas être avec nous ce soir. Et on est tous avec lui en tout cas. Et oui. Puis on se dit salut, à bientôt. Salut à tous sur le mix des cultures.